Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui incarne pleinement la résilience en vue de l'excellence. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Selma Qbej, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui.
C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Alors, Selma, je vais peut-être paraître un peu trop directe pour démarrer, mais comme on dit déjà, ma afch mnin bdek. Au vrai sens du... Honnêtement. Parce qu'en fait, vous avez un parcours... vous avez un parcours d'excellence, que ce soit académique ou bien au niveau professionnel aussi. Vous avez enchaîné les expériences, vous avez enchaîné les postes pour ensuite lancer votre propre projet. Et donc, quand je dis Mahashimnin Bdek, c'est-à-dire, est-ce que... Bon, allez, je vais le formuler d'une autre manière. Est-ce que c'était prémédité tout ça?
Prémédité, je ne sais pas, mais ça vient certainement de l'environnement dans lequel j'ai grandi et certainement de l'éducation que j'ai eue, on va dire, au niveau familial qui m'a toujours poussée vers l'excellence. Et combiné avec quelque chose, j'ai envie de dire, d'un peu inné, qui m'a poussée vers des voies où je pouvais vraiment avoir un impact sur le monde autour de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup drivée depuis l'adolescence, on va dire. Je me suis toujours projetée dans des rôles ou dans des opportunités qui avaient du sens et dans lesquelles je voyais que je pouvais impacter positivement le monde autour de moi.
Alors quand je dis est-ce que c'était prémédité, bon d'abord on va mettre peut-être nos auditeurs, notre communauté dans le contexte. Vous, Selma Qbej, vous êtes co-founder at Impact Lab Africa. Quand je dis parcours d'excellence, c'est que vous êtes passé par McGill, vous êtes passé par LSI, vous avez été consultante, associée, vous avez été directrice de projet et aujourd'hui vous êtes donc co-founder et CEO d'Impact Lab. Est-ce que c'est dur ? Maintenant, vous êtes dedans, on va dire, ok ? Ça a donné de ses fruits. Mais vous avez dit, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, c'est l'environnement dans lequel j'ai évolué. Est-ce que c'est compliqué, quand même, malgré tout, malgré la réussite d'aujourd'hui, d'évoluer dans un environnement qui vous pousse à l'excellence ?
Dans mon cas, je n'ai pas trouvé ça compliqué. Je suis au contraire assez reconnaissante vis-à-vis de mes parents, de la famille qui m'a entourée pour avoir inculqué certaines valeurs, la valeur de l'effort, la valeur du travail et de l'impact finalement. Donc ça, pour moi, c'est au contraire, c'est une grande force. La résilience aussi, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué et qui est très important à la fois dans le monde professionnel mais aussi dans l'environnement personnel. Donc tous ces éléments-là sont autant de facettes qui sont venues un peu nourrir mon parcours professionnel et pour lesquelles aujourd'hui je suis reconnaissante. Après, évidemment, les choix qu'on fait en fait à différents moments ne sont jamais particulièrement faciles parce que forcément, quand on s'engage dans une voie, il y a d'autres opportunités qu'on laisse de côté. Et en particulier, je pense que le tournant que j'ai pris vers le monde entrepreneurial, ça a été une grosse décision dans mon parcours professionnel qui a complètement, en fait, je dirais, fait dévier une trajectoire qui aurait pu être assez, disons, standard dans le sens où j'aurais pu continuer à évoluer dans des grandes structures internationales avec une progression de carrière bien tracée.
De salaire, etc.
Exact.
Tout était déterminé. Mais alors justement, c'est un confort en fait. C'est un confort, c'est une zone de confort que vous auriez très
Tout
bien
à fait.
pu accepter. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis par rapport à ça?
Alors, j'ai senti que déjà, j'ai senti que je n'avais pas la passion pour ce que je faisais au quotidien. C'est-à-dire que je le faisais bien, parce qu'on m'avait appris à bien faire les choses quand j'étais engagée dans une dynamique, mais je n'avais pas la flamme qui pouvait me pousser vraiment à donner au-delà de ce qu'on attendait de moi et à finalement m'épanouir dans ce contexte professionnel. Et c'est cette recherche de flamme et cette recherche d'impact aussi qui a fait qu'à un moment, je me suis ouverte à d'autres opportunités qui me parlaient plus à ce moment-là par rapport surtout à l'impact que je recherchais
Mais
pour
d'autres
mon
vous
pays, en
diront
fait. Il y a,
juste, ouais,
il y a aussi
cette
ce
dimension.
point-là de dire, je veux vraiment faire quelque chose pour mon pays.
Ouais.
Et là où j'étais, effectivement, le résultat pour moi n'était pas assez concret. J'étais dans un fonds d'investissement. On investissait effectivement dans des grandes PME marocaines. C'est très important pour le pays également. Mais c'est-à-dire qu'à mon échelle, je trouvais que l'impact était réduit parce que finalement, le nombre de deals qu'on fait chaque année était assez réduit. Il y avait beaucoup d'efforts déployés pour peut-être investir dans une entreprise tous les ans ou deux maximum. Et j'avais envie de quelque chose qui donnait plus de résultats concrets au quotidien.
On aurait très bien pu vous dire, ben, vous pouvez vous lancer en parallèle de votre carrière, continuer dans ce que vous faites et faire de l'associatif.
Oui, mais le projet d'Impact Lab n'était pas un projet associatif et n'a jamais eu vocation à être un projet associatif. À Impact Lab, en fait, vraiment, la vision, c'était de dire, on peut faire du business, mais on peut le faire autrement. Et on peut monter des projets qui ont une dimension d'impact social et environnemental, tout en étant rentable et tout en ayant une ambition de croissance comme toute autre entreprise. Et on est convaincu d'ailleurs que en réalité, on a besoin de ce changement structurel pour faire face aux défis auxquels on fait face aujourd'hui et pour construire une croissance durable, inclusive, qui aujourd'hui apparaît comme une nécessité. Et donc, c'était important du coup que nous-mêmes, si on accompagne des entreprises et si on leur si on les pousse vers cette voie-là et si on pousse vers cette conviction-là, il faut que nous-mêmes, en tant qu'Impact Lab, comme on dit en anglais, walk the talk. Il faut qu'on applique les conseils qu'on donne aux entrepreneurs. Et c'est pour ça que dès le début, Impact Lab, en fait, a été structuré non pas comme une association, mais comme une entreprise avec un business model de prestation de services qui nous permet en tout cas de viser la rentabilité tout en ayant un impact positif sur l'écosystème entrepreneurial marocain.
Est-ce que ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social?
J'ai un peu de mal avec cette terminologie parce qu'elle a beaucoup de connotations différentes et les gens l'interprètent différemment et souvent quand on parle d'entrepreneuriat social, on imagine des petits projets très locaux,
Exact.
vraiment, voilà, allant vers l'associatif. Et je n'aime pas cette manière de, disons, dévaloriser ou diminuer, en fait, le travail de ces entrepreneurs qui, pour moi, sont les entrepreneurs de demain. Et c'est des gens qu'on doit accompagner à voir grand oui, peut-être à démarrer en résolvant des problèmes locaux, mais à se projeter sur comment, en fait, les solutions qu'ils sont en train de développer au niveau local peuvent s'adresser à des problématiques régionales, continentales, même internationales dans certains cas. Donc, le cœur de notre activité, c'est vraiment l'accompagnement de l'innovation avec un but d'impact social et environnemental. Donc, c'est peut-être plus proche de l'entrepreneuriat à fort impact que l'entrepreneuriat social qui, lui, pour moi, est souvent vu comme quelque chose de très local, petit, à dimension communautaire, on va dire.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a assez de projets face à l'engouement de toutes ces structures qui ont envie d'accompagner l'innovation marocaine et africaine? Est-ce qu'en face, il y a assez d'innovation?
Mais en fait, un écosystème d'innovation ou un écosystème entrepreneurial, c'est quelque chose qui se construit. Et pour pouvoir le construire, il faut un certain nombre de briques qui doivent être là pour constituer une fondation qui va, elle, faire émerger cette dynamique-là, faire émerger les projets et faire en sorte que ces projets passent d'un stade à l'autre, de l'idéation jusqu'au moment où on a des start-up en capacité de croître et de s'internationaliser. Et ces différentes briques, elles sont essentielles, du début jusqu'à la fin. Donc du début, ça va passer par les structures qui opèrent au niveau des universités ou des fois même encore plus tôt dans les lycées, les programmes qui vont être mis pour déployer la culture entrepreneuriale, le mindset de gestion des risques et d'acceptation de l'échec, etc. Ça va continuer avec les environnements dans lesquels on peut commencer à échanger, à développer ses premières idées, puis passer aux incubateurs et aux accélérateurs pour structurer ces idées-là et les faire passer à des stades d'entreprises opérationnelles qui vendent leurs solutions sur le marché, puis à des accélérateurs qui vont pousser vers l'international. Et tout le long de ce circuit, il faut alimenter en financement. Il faut financer les entrepreneurs, mais il faut financer également ces structures qui accompagnent les entrepreneurs. Et ça, c'est un élément très important. Parce que si ces structures-là ne sont pas fortes, elles ne pourront pas apporter de la qualité aux entrepreneurs qu'elles accompagnent. Et ensuite, il faut aussi un environnement plus large, j'ai envie de dire, qui soit favorable, donc un contexte réglementaire, mais aussi des clients, des gens qui sont prêts à payer pour de l'innovation, qui sont prêts à prendre le risque de dépenser pour acheter une solution innovante. Et on parle des clients, au Maroc, beaucoup de ces solutions sont des solutions qui s'adressent au B2B, en fait. Et donc, quand je parle des clients, je m'adresse surtout aux clients institutionnels, aux gouvernements, aux entreprises, etc., qui doivent s'ouvrir et consommer les produits ou les services offerts par ces startups. Et donc, j'ai envie de dire la question du nombre de startups qu'on fait émerger de cet écosystème dépend de la qualité de tout cet environnement. Parce que les talents, finalement, ne vont choisir la voie de la startup. S'ils ont le choix, en fait, ils choisiront la voie de la start-up ou la voie de l'entrepreneuriat que s'ils voient qu'autour d'eux, ils vont avoir des opportunités de vraiment réussir leur entreprise.
Et à ce moment-là, ils vont se permettre la réflexion, en fait.
Exactement, exactement. Et on l'a vu, d'ailleurs, c'est-à-dire que nous, on a démarré dans l'écosystème marocain en 2014-2015, et on en était au balbutiement de l'entrepreneuriat.
C'était justement oser de démarrer à ce moment-là.
Ah oui, tout à fait. On était tous un peu fous. On est plusieurs à avoir démarré autour de cette période-là, et quand on en reparle aujourd'hui, on se dit qu'on était fous.
Ouais.
Mais il fallait cette dose de folie parce que finalement, cet engagement, et c'était vraiment un engagement, et toutes ces personnes qui ont contribué à la construction de l'écosystème marocain, c'est des gens qui sont passionnés, on le voit, et jusqu'à aujourd'hui, les 10 dernières années n'ont pas été des années faciles, parce qu'on a dû batailler. Et c'est tous des gens qui sont encore là, qui bataillent encore et qui sont vraiment animés par cette flamme dont je parlais tout à l'heure et que je ne trouvais pas dans mon contexte professionnel précédent. Mais justement, là, c'est vraiment, on est en train de construire quelque chose. On peut voir, bon, même si ça évolue quand même, j'ai envie de dire, plus lentement que ce qu'on aimerait, mais oui. Il y a une transformation radicale. Des premiers événements qu'on organisait il y a 10 ans autour de la start-up où les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire une start-up. Nos interlocuteurs ne comprenaient pas quand on leur parlait.
Mais est-ce que, pardon, Salma, donc, justement, ouais. Justement, est-ce qu'aujourd'hui le contexte marocain permet de faire la différence entre une entreprise et une start-up ?
Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec ce travail de lobbying qui a été fait, avec aussi l'engagement des médias qui a été important ces dernières années pour, on va dire, démocratiser le concept de la start-up et mettre en avant des belles start-up marocaines. Ce qui a fait que, disons qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients de... Enfin, déjà comprennent beaucoup mieux ce qu'est une start-up. Deuxièmement, les gens ont vu des success stories émergés du Maroc, qui ont eu une dimension internationale, qui ont attiré les médias marocains et internationaux. Les gens ont également, je pense surtout après Covid, ont plus pris conscience, les entreprises et les institutions publiques ont plus pris conscience de l'importance d'innover. Et du fait que rien n'était acquis, en fait, que leur business model tel qu'il les déploie aujourd'hui, on est dans un contexte incertain. On a eu une crise qui nous a enfermés pendant de longs mois. Donc, les entreprises ont compris qu'elles avaient besoin de cette agilité. D'ailleurs, plusieurs startups marocaines ont contribué à faire en sorte que cette période Covid se déroule mieux que ce qui aurait pu être. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un changement de mindset et une prise de conscience de l'importance d'innover, de l'incertitude qu'on a dans l'environnement des affaires, dans l'évolution aussi des comportements des clients, dans le changement du contexte compétitif, qui fait que plusieurs entreprises aujourd'hui sont engagées dans une dynamique d'innovation et sont à la recherche de partenariats avec des startups pour faire face aux défis stratégiques qu'elles ont. De la même manière aussi avec le secteur public. On voit aujourd'hui, par exemple, au niveau du secteur agricole. Aujourd'hui, au Maroc, on est face à une crise environnementale majeure liée à la sécheresse. Et donc, que ce soit les acteurs privés ou les acteurs publics, aujourd'hui, tout le monde est engagé à aller identifier les innovations qui vont nous permettre d'arriver à une agriculture plus résiliente, plus adapté au changement climatique, plus respectueuse des ressources hydriques et de l'environnement au sens large.
Alors, on a beaucoup parlé boulot, mais énormément. Est-ce que pour arriver à tout ça, pour faire tout ça, pour être qui vous êtes aujourd'hui, c'est on ne peut pas dissocier de la femme que vous êtes, de votre vie personnelle, privée. Est-ce que ça vous a coûté quelque chose ou au contraire, ça vous a beaucoup plus donné que ce que ça ne vous a pris ? Mais d'abord, est-ce que ça vous a pris quelque chose ?
J'imagine, oui. J'imagine, mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, on passe tous par des périodes plus difficiles où je pense que c'est une question d'équilibre et l'équilibre, en fait, se trouve dans la durée. Donc, il y a forcément eu des phases de déséquilibre qui ont fait que j'ai consacré plus de temps à mon aventure professionnelle, ouais. Voilà, qu'à ma famille ou qu'à moi-même. Le moi-même, c'est la variable d'ajustement là qui est toujours ouais. qui finit toujours par se faire un petit peu écraser dans le tas. Mais je pense que ce qui est important, c'est Bah déjà, c'est d'être à l'écoute de soi-même et de ses envies et de ses envies qui peuvent évoluer d'un moment à l'autre, en fait, d'une période à l'autre. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de soi et se dire que finalement, on a besoin d'être épanoui professionnellement pour pouvoir aussi se sentir bien dans notre contexte personnel. Donc ça, moi, j'en suis convaincue. S'épanouir professionnellement, ça ne veut pas forcément dire travailler comme une folle tout le temps et y passer ses soirées, ses week-ends. Il peut y avoir des périodes comme ça et je l'ai fait parce que c'était important pour moi. Mais il faut aussi savoir s'écouter, se dire que y a des moments où c'est plus le moment, où on a envie d'autre chose. Et c'est OK aussi de rééquilibrer et de réaligner ses ambitions par rapport à son besoin du moment. Et je pense qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, en fait. C'est ça. Souvent, on est dans des dynamiques où on se dit, je suis là, il faut que je continue, et j'ai été ambitieuse, il faut continuer à toujours plus avoir, à toujours plus à atteindre comme objectif. Mais c'est OK aussi de prendre du temps du temps différemment, en fait. Et ça n'empêche pas d'y retourner plus tard, une fois qu'on est retourné.
Et ça, vous y arrivez à le faire, vous ? J'ai pas l'impression. Oui, mais c'est ça.
C'est un discours, en fait, qui reflète aussi peut-être une envie du moment. Et c'est aussi un travail sur soi qui est important à faire. Mais c'est vrai que quand on est structuré pour être overachiever, même si c'est pas dans le boulot, on va overachieve autre part.
Partout.
mais c'est important de. Je pense que d'un point de vue de santé physique, santé mentale, d'un point de vue d'équilibre aussi. Dans sa dynamique familiale, c'est aussi important de savoir faire des pauses.
Eh bien, Selma Khabbaj, merci infiniment pour cette pause avec nous, justement, dans Femme d'aujourd'hui et sa version homme. Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous pour l'invitation. J'ai été ravie d'échanger avec vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.